Chapitre 9. Le génie de se peindre soi-même. Il s'agit simplement d'avoir du courage. Préface. Étrange fut sa vie, étrange fut sa résurrection. Le 13 décembre 1820, qui se souvient encore de Casanova, l'éditeur Brockhaus reçoit d'un monsieur Genzel totalement inconnu, une lettre lui demandant s'il voudrait publier l'histoire de ma vie jusqu'en 1797, composée par un signor Casanova, également inconnu. L'éditeur se fait envoyer les in-folios et les fait lire par des gens du métier. On peut imaginer leur enthousiasme. Alors ce manuscrit est aussitôt acheté, traduit, probablement altéré d'une manière grossière, pourvu de feuilles de figuier et ajusté à l'usage qu'on en veut faire. Dès le 4e volume, le succès cause déjà un tel scandale qu'un adroit pirate parisien retraduit en français l'ouvrage français qui a été traduit en allemand, ce qui fait une double déformation. Alors Brockhaus, à son tour, devient ambitieux. Il joint à la traduction allemande une nouvelle traduction en français. Bref, Giacomo, le ressuscité, revit aussi vivant que jamais dans tous les pays et toutes les villes où il est passé. Seulement, son manuscrit est solennellement enterré dans le coffre-fort de messieurs Brockhaus. Et Dieu et les Brockhaus sont peut-être les seuls à savoir quel chemin dérobé et détourné les volumes ont parcouru pendant ces 23 ans. Ce qui en a été perdu, mutilé, falsifié et altéré. Héritage digne de Casanova, toute l'affaire sent profondément le mystère, l'aventure, la malhonnêteté et l'escroquerie, mais quelle merveille c'est déjà que de posséder le plus gaillard et le plus dru des romans d'aventure de tous les temps. Lui-même, Casanova, n'a jamais cru sérieusement à la publication de ce monstre. Depuis 7 ans, je ne fais qu'écrire mes souvenirs, confesse l'ermite rhumatisant, et c'est pour moi devenu peu à peu un besoin de terminer la chose, bien que je regrette beaucoup de l'avoir commencé. Mais j'écris dans l'espoir que mon histoire ne verra point la lumière de la publicité, car outre que l'infâme censure, cet éteignoir de l'esprit n'en autoriserait jamais l'impression. J'espère, dans ma dernière maladie, être assez raisonnable pour faire brûler devant mes yeux tous mes cahiers. Heureusement, il est resté fidèle à lui-même, Casanova, et il n'est jamais devenu raisonnable. Sa rougeur secondaire, comme il dit, voulant signifier par là la rougeur de ne pas rougir, ne l'a pas empêché de manier vigoureusement la palette et de remplir jour après jour, pendant 13 heures, des feuillets toujours nouveaux de sa belle écriture ronde. Ses souvenirs étaient somme toute le seul remède pour ne pas devenir fou ou pour ne pas mourir de chagrin à cause des désagréments et des ennuis quotidiens que lui causent d'envieux coquins qui se trouvent avec lui au château du comte de Waldstein. Par Jupiter, quel piètre motif pour composer des mémoires, objectera-t-on avec méfiance, que d'y chercher une arme contre l'ennui, un remède contre l'ossification intellectuelle. Nous aurions tort de mépriser l'ennui comme impulsion et stimulant de la création littéraire. Nous devons le Don Quichotte aux tristes années de Cachot de Cervantes, les plus belles pages de Stendhal aux années d'exil dans les marais de Civitavecchia, et peut-être même la divine comédie de Dante uniquement à son bannissement. À Florence, il aurait écrit dans le sang avec le glaive et la hache, au lieu d'écrire en tercet. Ce n'est que dans la chambre obscure, dans l'espace artificiellement obscurci, que naissent les images les plus colorées de la vie. Si le comte de Waldstein avait pris avec lui le bon Giacomo à Paris ou à Vienne, s'il l'avait bien nourri, s'il lui avait fait sentir la chair des femmes, si on lui avait fait les honneurs dans les salons, à cause de son esprit, ses récits délicieux auraient été perdus dans la conversation, auprès d'une tasse de chocolat et d'un sorbet, sans être jamais mis par écrit. Mais le vieux renard est assis, solitaire et gelé, dans ce pont de Bohême, et il raconte les choses comme s'il était déjà tourné vers l'empire des morts. Ses amis sont décédés, ses aventures oubliées, ses sens refroidis. Il est lui-même comme un fantôme oublié, errant dans les salles étrangères et glaciales de ce château. Aucune femme ne vient le visiter, personne ne lui témoigne plus, ni estime, ni honneur, personne ne l'écoute. C'est pourquoi le vieux magicien, rien que pour se prouver à lui-même qu'il vit, ou du moins qu'il a vécu, vixi ergo sum, pratique encore une fois l'art cabalistique d'évoquer les figures passées et se raconte, pour le plaisir, ses plaisirs d'autrefois. les affamés se nourrissent de l'odeur du rôti, et les invalides de la guerre et de l'amour du récit de leurs propres aventures. Je renouvelle le plaisir en me souvenant, et je me ris de mes maux d'autrefois, car je ne les sens plus. Ce n'est que pour lui-même que Casanova fait marcher la lanterne magique du passé, ce jouet puéril du vieillard. Il veut oublier un présent misérable grâce aux images colorées du souvenir. Il ne cherche pas davantage, il ne songe qu'à cela. Et c'est précisément cette indifférence parfaite, cet élément ordinairement négatif, d'insouciance à l'égard de tout et de tous, qui donne à son ouvrage une valeur psychologique sans pareil en tant qu'autobiographie. Car celui qui d'habitude raconte sa vie le fait presque toujours dans un certain dessin, et pour ainsi dire comme s'il était dans un amphithéâtre. Il se campe sur une scène, en face des spectateurs, surveille malgré lui sa tenue pour se rendre intéressant, calcule les effets et souvent même poursuit une fin particulière. Un Benjamin Franklin fait de sa vie un livre d'enseignement, un Bismarck en fait un document, Jean-Jacques Rousseau un ouvrage sensationnel. Goethe, une œuvre d'art et un poème romanesque. Napoléon à Sainte-Hélène y cherche une justification coulée dans le bronze, comme une statue et un monument. Tous attendent déjà par avance, dans le sentiment qu'ils ont de leur existence historique, un certain effet du portrait qu'ils tracent d'eux-mêmes, que ce soit sur le terrain de la morale, de l'histoire ou de la littérature. Par conséquent, le sentiment de leur responsabilité pèse sur eux tous, ou bien les entrave. Les hommes célèbres ne sont jamais libres dans leur autobiographie, car l'image de leur vie est déjà confrontée avec une image préfigurée dans l'imagination ou le souvenir d'hommes innombrables. Ainsi, ils sont forcés, malgré eux, de styliser leurs portraits dans le sens de la légende qui s'est déjà formée. Ils sont obligés, les hommes illustres, à cause de leur gloire même, d'avoir égard à leur pays, à leurs enfants, à la morale, au respect et à l'honneur. Inconsciemment, ils louchent vers le miroir où se reflète, embellie, leur personnalité temporaire. C'est pourquoi toujours celui qui a des attaches avec beaucoup de choses est arrêté de multiples fois. Casanova, lui, peut s'offrir le luxe de la liberté la plus radicale et du sans-gêne de l'anonyme, parce qu'il n'a plus d'obligation envers personne, qu'il n'est plus lié ni au passé, qu'il a oublié, ni à l'avenir, auquel il ne croit pas. Des scrupules de famille, d'ordre moral ou objectif, ne viennent pas le troubler. Il a déposé ses enfants comme des œufs de coucou dans des nids étrangers. Les femmes avec qui il a couché pourrissent depuis longtemps sous la terre italienne, espagnole, anglaise ou allemande. Il n'est gêné par aucun pays, aucune patrie, aucune religion. Qui diable aurait-il aménagé ? Lui-même, moins que quiconque. Ce qu'il raconte ne peut plus ni lui être utile, ni lui nuire. Lui qui est déjà comme un mort, et par-delà le bien et le mal, par-delà l'estime et l'indignation, les applaudissements et l'irritation. Il n'existe plus dans la mémoire des hommes, étoile morte qui ne brille plus que secrètement et invisiblement sous son écorce la plus intime. Pourquoi, se demande-t-il alors, ne serais-je pas véridique ? On ne se trompe jamais soi-même, et je n'écris que pour moi. Être véridique. Cela signifie pour Casanova non pas se perdre dans la profondeur et dans la méditation, ouvrir des galeries psychologiques dans son être, mais tout simplement être sans gêne, sans frein, sans pudeur. Il ôte ses vêtements, se met à son aise, tout nu, trempe son corps desséché encore une fois dans le flot brûlant de la sensualité, barbote et s'ébroue gaiement et hardiment dans ses souvenirs, suprêmement indifférent aux spectateurs présents ou imaginaires. Ce n'est pas en capitaine, en littérateur, en poète qu'il raconte ses aventures pour en tirer gloire et honneur, mais bien comme un rôdeur de barrière raconte ses rixes ou une cocotte qui vieillit mélancoliquement ses heures d'amour, c'est-à-dire sans aucune entrave venue de la honte ou du scrupule. Non erubesco evangelium. Je ne rougis pas de ma confession, telle est l'épigraphe placée sous ce précis de ma vie. Il ne se gonfle pas, ni ne regarde avec repentir du côté de l'avenir. Il raconte les choses directement et carrément telles qu'elles lui viennent à l'esprit. Il n'est donc pas étonnant que son livre soit un des plus nus et des plus naturels de l'histoire universelle, d'une objectivité dans l'érotisme qui rappelle un document de statistique, d'une sincérité dans la moralité véritablement antique et telle qu'on ne la rencontre ailleurs que dans l'autobiographie, trop connu, du turbulent espagnol Contreras. Mais il a beau paraître grossièrement sensuel, d'une insolence à la manière de Lucien et, au goût des délicats, faire parfois jouer trop visiblement ses muscles phalliques avec la vanité d'un athlète satisfait de lui-même, il vaut encore mille fois mieux ses façons de parader sans vergogne qu'un lâche escamotage des poings scabreux ou qu'une galanterie de nuque inoréticis. Que l'on compare donc les autres traités érotiques de son temps, les frivolités couleur de rose et d'une fadeur musquée d'un Grécourt, d'un Crébillon, ou bien ce Faublas où Eros porte un pauvre petit costume de berger et où l'amour n'est qu'un lascif chassé-croisé, un galant petit jeu dans lequel on n'attrape ni des enfants ni la syphilis, avec ses descriptions directes, exactes, débordant de la joie d'une saine et pleine jouissance, ses descriptions d'un homme sensuel, d'une sincérité absolue, et l'on pourra dès lors en apprécier complètement l'humanité et le naturel élémentaire. Chez Casanova, l'amour masculin n'est pas une petite onde mythologique d'un bleu tendre dans lequel les nymphes rafraîchissent leurs pieds en jouant, mais un fleuve immense, issu du sein de la nature, reflétant l'univers à sa surface et en même temps traînant dans son fond toute la vase et la boue de la terre. Comme personne de ceux qui ont écrit leur biographie, il dépeint le débordement sauvage, pareil à l'ardeur de Pan, de l'instinct sexuel du mâle. Voici enfin quelqu'un qui a eu le courage de montrer dans l'amour masculin le mélange absolu de la chair et de l'esprit, de raconter non seulement les affaires sentimentales, les passions décemment avouables, mais aussi les aventures des rues où règne la prostitution, les faits de la sexualité nue et qui ne va pas plus loin que la peau, tout le labyrinthe du sexe que traverse tout homme véritable. Ce n'est pas que les autres grands autobiographes, que Goethe ou Rousseau, aient manqué directement de sincérité dans la représentation qu'ils nous ont donnée d'eux-mêmes, mais il y a aussi une insincérité qui consiste à ne raconter les choses qu'à demi ou à les passer sous silence. Et tous deux, comme tous ceux qui ont laissé des confessions, sauf peut-être le hardi Hans Jäger, teste avec soin, en les oubliant consciemment ou en passant vite à autre chose, les épisodes moins appétissants, purement sexuels, de leur vie amoureuse, pour ne s'étendre que sur les amourettes idéalisées, sentimentales ou passionnées, avec les Claires et les Marguerites. Ils ne présentent dans leur biographie que les femmes moralement assez propres pour qu'ils n'aient pas honte de leur donner le bras sur la promenade publique. Les autres, ils les laissent lâchement et prudemment dans l'ombre de leurs ruelles et de leurs escaliers de service. Mais par là, ils falsifient et ils enjolivent inconsciemment l'image authentique de l'érotisme masculin. Goethe, Tolstoï et même Stendhal, qui pourtant n'a rien de prude, glissent rapidement, comme s'ils en rougissaient, sur d'innombrables aventures d'ordre uniquement sexuel, et sur leur rencontre avec la Vénus vulgivaga, avec l'amour terrestre, trop terrestre. Et si l'on n'avait pas ce gaillard de Casanova qui soulève toutes sortes de rideaux avec sa sincérité hardie et sa magnifique impudeur, il manquerait à la littérature universelle un tableau parfaitement sincère et absolument complet de la sexualité masculine. Chez lui, on voit enfin tout le mécanisme sexuel de la sensualité en état de fonctionnement. On voit le monde de la chair même là où il devient crapuleux, vaseux et marécageux. On a vu sur les bas-fonds et les abîmes ce fainéant, cet aventurier, ce tricheur au jeu, cet homme sans caractère, fait preuve d'une sincérité plus courageuse que tous nos poètes, car il montre l'univers comme un conglomérat de beauté et de vilenie, d'esprit et de grossière sexualité, et non pas comme les autres, simplement une réalité idéalisée, chimiquement purifié. Casanova dit in sexualibus non seulement la vérité, mais, différence immense, toute la vérité. Seul le tableau de l'amour qu'il nous donne est vrai comme la réalité. Casanova dirait la vérité. On entend déjà les philologues se lever indignés de leur siège, eux qui pendant ces 50 dernières années ont dirigé un feu de mitrailleuse contre ces erreurs historiques et qui y ont relevé maint grossier mensonge. Mais doucement, doucement, sans doute, cet adroit tricheur, ce menteur et rodomon de profession, a aussi dans ses mémoires brouillé les cartes, avec un peu d'artifice. Il corrige la fortune, cet incorrigible filou. Il donne des jambes au hasard qui souvent se déplacent trop lourdement. Il orne, garnit, poivre et épices, son ragoût aphrodisiaque, avec tous les ingrédients d'une imagination aiguisée par la privation, et cela peut-être même sans que toujours il s'en rende compte. En effet, des embellissements et des mensonges, souvent racontés, deviennent pour la mémoire peu à peu légitimes, et un véritable conteur ne sait plus à la fin ce qui, dans son récit, est invention ou réalité. Ne l'oublions pas, Casanova a été à proprement parler, sa vie durant, une sorte de rhapsode. Il a acquis la faveur des grands personnages par son art de la conversation, par son habileté de parole, par le récit d'aventures extraordinaires et, tout comme autrefois les chanteurs allant de château en château ajoutaient pour accroître l'intérêt des épisodes toujours nouveaux à leurs œuvres, il était obligé de donner une parure à ses aventures. Chaque fois, quand par exemple il racontait l'histoire de son évasion des plombs, il était tenu pour la rendre plus intéressante d'inventer une dangereuse et nouvelle péripétie, et c'est ainsi qu'il s'enfonçait toujours davantage dans l'exagération. Il ne pouvait pas deviner, le bon Giacomo, que 150 ans après sa mort, une police spécialement attachée à l'histoire casanovienne fouillerait encore tous les documents, lettres et archives pour vérifier chaque date, contrôler chaque rencontre et, à chaque mensonge, à chaque erreur relevée, lui taper vigoureusement sur les doigts avec la férule de la science. Sans doute, elles sont un peu fragiles, ces dates, et si on les touche trop brutalement, les plus amusantes constructions tombent avec elles, comme un château de cartes sur lequel on souffle. Ainsi, on a déjà démontré que toute l'affaire romanesque de Constantinople n'a été probablement qu'un rêve voluptueux du vieil habitant de Dux, et qu'il a impliqué tout à fait faussement le pauvre cardinal de Bernis comme camarade d'amour et comme voyeur dans son aventure avec la belle nonne M.M. Il prétend avoir rencontré des personnalités à Paris et à Londres, à une époque où il éprouvait qu'elles étaient ailleurs. Il fait mourir la marquise d'Urfé 10 ans plus tôt parce qu'elle le gêne, ou bien, perdu dans ses pensées, il parcourt en se promenant dans une heure les 31 kilomètres qu'il y a de Zurich au couvent d'Ensiedeln, c'est-à-dire avec la vitesse d'une automobile, véhicule qui n'était pas encore inventé. Non, il ne faut pas chercher en lui un fanatique de la vérité minutieuse, un historien sûr, et plus la science examine de près notre bon Casanova, plus il tombe sous le coup de la critique. Mais toutes ces petites tromperies, erreurs chronologiques, mystifications et fanfaronnades, ces oublis volontaires et souvent très compréhensibles, ne sont rien à côté de la véridicité extraordinaire et pour ainsi dire unique qu'il y a en somme dans la vie racontée par ses mémoires. Sans doute, Casanova a fait abondamment usage dans les détails du droit incontestable qu'a l'artiste de concentrer les choses dans le temps et dans l'espace et de rendre les faits plus expressifs. Mais qu'est-ce cela à côté de la sincérité, de la franchise, de la netteté avec lesquelles il regarde, dans leur ensemble, sa vie et son temps? Non seulement lui, mais un siècle entier, se dresse soudain plein de vie sur la scène, en faisant défiler devant nous, pêle-mêle, dans des épisodes dramatiques, pétillants de contrastes et chargés d'électricité, toutes les classes et tous les états de la société et des nations, tous les paysages et toutes les sphères, tableaux de mœurs, et surtout des mauvaises, comme il n'en existe pas d'autres. Car le fait que l'on pourrait reprocher à Casanova de ne pas aller très au fond des choses, de n'être pas guidé par un point de vue élevé, de ne pas résumer comme Stendhal ou Goethe les particularités nombreuses des différents groupes sociaux sous forme d'aperçus intellectuels, c'est précisément cela, ce caractère superficiel de son observation, qui, au milieu des événements, se borne à regarder avidement ce qu'il y a de plus curieux, à droite et à gauche, qui donne à sa vision tant de valeur documentaire pour l'histoire de la civilisation. Casanova ne cherche jamais à expliquer le pourquoi ou le comment des choses, et par là, il n'enlève pas tout caractère vivant à la somme des phénomènes. Non, il laisse tout sans ordre, à l'état de liberté, dans la coexistence authentique du hasard, sans triage, ni cristallisation. Tout chez lui est situé sur la même ligne d'importance, pourvu que cela l'amuse, le seul étalon des valeurs qu'il y ait dans son univers. Il ne connaît ni grand, ni petit, ni dans la morale, ni dans la réalité. Il ne connaît ni bien, ni mal. C'est pourquoi son entretien avec le grand Frédéric ne sera pas décrit avec plus de détails ou d'émotions que, 10 pages plus haut, une conversation avec une petite prostituée. Il dépeindra avec la même objectivité et la même minutie une maison close de Paris et le palais d'hiver de l'impératrice Catherine. Il attache autant d'importance à indiquer combien de centaines de ducats il a gagné au pharaon ou combien de fois, en une nuit, il a triomphé de sa Dubois ou de son Hélène qu'a conservé à l'histoire de la littérature sa conversation avec M. de Voltaire. Il n'attribue à aucune chose au monde une portée morale ou esthétique. Et c'est pourquoi son univers possède un équilibre si magnifique et si naturel. Le fait que les mémoires de Casanova ne sont, intellectuellement parlant, guère plus que les notes d'un intelligent voyageur moyen à travers les paysages les plus intéressants de la vie, leur donne, non pas un caractère philosophique, mais celui d'un Baedeker historique, d'un Cortigiano du XVIIIe siècle et d'une amusante chronique scandaleuse, d'une sorte de coupe intégrale à travers la vie quotidienne d'un âge du monde. Personne, mieux que Casanova, ne nous fait connaître l'existence ordinaire, et par là la culture du XVIIIe siècle. Ses bals, théâtres, cafés, hostelleries, bordels, chasses, couvents et forteresses. On sait grâce à lui comment, à l'époque, les gens voyageaient, mangeaient, jouaient, dansaient, se logeaient, aimaient et s'amusaient. On en connaît les mœurs, les manières, les façons de parler et de vivre. Et à cette multitude inouïe de faits, de réalités pratiques et objectives, s'ajoute encore tout ce tumulte tourbillonnant de figures humaines suffisant pour remplir 20 romans et pour approvisionner une génération, que dis-je, 10 générations de conteurs. Quelle surabondance ! Soldats et princes, papes et rois, malandrins et tricheurs, marchands et notaires, castrats, entremetteurs, chanteurs, vierges et courtisanes, écrivains et philosophes, sages et fous. Il y a là la plus captivante et la plus riche ménagerie humaine que jamais un auteur ait réunie dans le cadre d'un ouvrage. Et en même temps, il y a de la marge dans la représentation intérieure de chaque figure. Aucune ne fait l'objet d'une psychologie complète, ni n'en épuise les possibilités. Il écrit lui-même un jour à Opitz que le talent psychologique, l'art de reconnaître les physionomies intérieures, lui manque, de sorte qu'il n'est pas étonnant que depuis lors, d'innombrables auteurs aient tiré leur moût de cette vigne méridionale. Des centaines de romans et de drames doivent à son œuvre leurs meilleures figures et situations. Et encore aujourd'hui, cette mine n'est pas épuisée. De même que 10 générations ont tiré du Forum Romanum des pierres pour de nouvelles constructions, de même quelques générations littéraires emprunteront encore à ce prodigue des socles et des figures. Mais la figure des figures, le personnage inoubliable, devenu déjà proverbe et type populaire, qu'il y a dans les mémoires, reste, malgré tout, lui-même, Casanova, ce croisement audacieux de l'homme de la Renaissance et du chevalier d'industrie le plus moderne, ce bâtard du filou et du génie, du poète et de l'aventurier, qu'on ne se lasse jamais d'admirer. Insolemment campé comme son compatriote de bronze, Colleoni, sur ses étriers, il se dresse les jambes écartées au milieu de la vie et regarde d'un air de défi par-dessus les siècles, indifférent au blâme et à la raillerie. Casanova craint moins que quiconque de se laisser dévisager, blâmer, critiquer, railler et mépriser. Il ne fait rien en secret, et en réalité, on connaît mieux que ses propres frères et cousins, jusqu'au cœur et même aux testicules, ce gaillard de fer, cet exemplaire gigantesque et inépuisable de virilité. Il est tout à fait inutile de l'étudier psychologiquement avec minutie, de chercher en lui des motifs cachés et des secrets. Casanova n'en a aucun. Il parle toujours sans fard, et il est déboutonné jusqu'à la braguette. Sans façon, sans gêne et sans embâge, il prend joyeusement le lecteur par le bras, lui raconte avec ingénuité ses histoires les plus nues et les plus crues, le conduit dans sa chambre, jusqu'à son lit tout découvert, dans son officine de charlatan et dans son laboratoire d'escroc. Aux gens les plus inconnus, il présente sans voile sa maîtresse et son propre sexe. En riant, il se laisse voir en train d'exécuter ses tours les plus risqués de truqueur de cartes. Il se montre dans les situations les plus malpropres. Mais tout cela, non pas par une perversité raffinée de roi Candole, par un exhibitionnisme vantard, mais avec une naïveté parfaitement réelle, avec la bonhomie innée et charmante d'un enfant de la nature qui ne connaît aucun frein, qui a vu au paradis Ève nue sans avoir mangé la pomme redoutable, par laquelle on distingue le bien et le mal, le moral et l'immoral. Ici, comme toujours, c'est le naturel qui fait le compteur parfait. Le psychologue le plus habile, et nous tous qui nous efforçons de tracer son portrait, nous sommes incapables de représenter Casanova aussi plastiquement qu'il le fait lui-même grâce à sa nonchalance absolue et inconsciente. Comme, grâce à cette franchise incomparable, on connaît bien ici un caractère jusque dans son intime physiologie. Nous le voyons dans chaque circonstance de sa vie avec une netteté d'instrument d'optique quand, par exemple, il se met en rage et que la veine de la colère se gonfle en bleuissant sur son front, que ses dents blanches d'animal grincent pour arrêter la salive qui verse son fiel dans son gosier. Aussi, quand il est en péril, le front insolent, d'une présence d'esprit parfaite, se composant vite un masque, un froid sourire sur sa lèvre, retombant avec dédain, et la main appuyée sans trembler sur son épée. De même en société et dans les grands salons, vaniteux, vantard, orgueilleux, la poitrine gonflée et le regard étincelant de fierté et d'audace, parlant tranquillement et, en même temps, passant en revue les femmes avec une voluptueuse familiarité. Jeune homme ou ruine édentée, il est toujours près de nous plastiquement et physiquement. Et le lecteur de ses mémoires a la parfaite impression que si on le voyait aujourd'hui au coin de la rue, lui qui est mort depuis si longtemps, on le reconnaîtrait entre 100 000 personnes. Tellement quelqu'un qui n'est pas écrivain, qui n'est pas poète, qui n'est pas psychologue, a infusé à son propre portrait la chaleur de la vie. Ni Goethe avec Werther, ni Kleist avec Coloas, ni Jean-Jacques Rousseau avec Saint-Preux et Héloïse, ni aucun des contemporains de Casanova, ni un seul écrivain n'a donné autant de relief tangible à une de ses figures que ce mauvais sujet en a donné à la sienne. Et dans toute la littérature universelle, nous avons très peu de portraits aussi achevés que l'image qu'a faite de lui un homme qui n'était pas artiste, ou plutôt qui n'était artiste que dans sa façon de vivre. Aussi ne sert-il à rien de faire peu de cas de son talent équivoque, de condamner au nom de la morale sa conduite contraire à la loi, ni de critiquer pointilleusement la misère de sa philosophie. Non, cela ne sert à rien, puisque ce Giacomo Casanova appartient quand même à la littérature universelle, comme ce gibier de potence que fut Villon et toutes sortes d'autres existences troubles, et puisqu'il survivra à d'innombrables poètes et juges reconnus de moralité. Comme dans la vie, il a aussi, post festum, réduit à l'absurde toutes les lois de l'esthétique, il a jeté avec insolence sous la table le catéchisme de la morale. Car la durée de son action prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être particulièrement doué, appliqué, décent, noble et distingué pour pénétrer dans les parvis sacrés de l'immortalité littéraire. Casanova a montré que l'on peut écrire le roman le plus amusant du monde sans être littérateur et tracer l'image la plus parfaite d'une époque sans être historien. Car, en dernière instance, ce qui importe, ce n'est jamais la façon de s'y prendre, mais l'effet produit, ce n'est jamais la moralité, mais la puissance. Tout sentiment intense peut devenir productif, l'impudeur aussi bien que la pudeur, l'absence de caractère aussi bien que le caractère, la méchanceté aussi bien que la bonté, la moralité comme l'immoralité. Ce qui donne l'éternité, ce n'est jamais la forme de l'âme, mais la plénitude de l'humanité. Seule l'intensité rend éternelle, et plus la vie d'un homme a de force, de vitalité, de suite et d'unité, mieux il parvient à se réaliser. L'immortalité ignore tout du moral et de l'immoral, du bien et du mal. Elle se borne à mesurer des œuvres et des forces. Elle demande à l'homme l'unité et non pas la pureté. Elle lui demande d'être un exemple et une figure originale. Pour elle, la morale n'est rien, l'intensité est tout. Ici se termine Casanova de Stefan Zweig, enregistré par Christiane Johann.